Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.
La belle rencontre d'aujourd'hui, je vous propose de la partager avec un homme pour qui engagement veut vraiment dire quelque chose. Un homme pour qui être médecin, ce n'est pas un métier, mais c'est une vie. Bonjour Gilles Roche.
Bonjour Nathalie.
Gilles, vous êtes le président pour le Languedoc-Roussillon de la FRM, Fondation pour la Recherche Médicale. Vous l'êtes depuis plus de 6 ans, depuis 2017. Et jeudi dernier, j'ai partagé un après-midi avec vous à l'IRCM, qui est donc l'Institut de Recherche en Cancérologie de Montpellier, qui est localisé dans le Val-d'Aurel, là-haut à Romédecine. J'ai pu échanger avec des responsables, des donateurs, des chercheurs, mais avant tout, qui de mieux placé que vous pour nous expliquer ce qu'est la Fondation pour la Recherche Médicale là.
Oui, alors merci de me donner l'occasion. C'est une fondation, comme le nom l'indique, qui soutient la recherche médicale publique fondamentale, comme le nom le dit en partie seulement, et qui est la grande fondation française polyvalente, c'est-à-dire qu'elle aide la recherche dans tous les domaines thérapeutiques. Hein, ça va être la cancérologie, on a vu à l'IRCM, les neurosciences, les maladies génétiques, les maladies métaboliques, les maladies infectieuses et tropicales, enfin, etc. Donc il y a tous les domaines thérapeutiques sont inclus dans le spectre des actions de la FRM, ce qui fait que le choix des projets qui sont soutenus ou des équipes qui sont soutenues n'est pas lié directement à leur spécialité, à la spécialité, elle est liée à la qualité des projets, c'est-à-dire la qualité scientifique, les chances d'obtenir, d'arriver, d'aboutir à des résultats qui vont permettre de changer la vie des patients, donc qui auront un intérêt pour la collectivité des patients sensibles, et puis après, qui ont des chances bien sûr d'aboutir. Donc c'est cette qualité-là, ce n'est ni la région dans laquelle elle équipe, ni forcément le domaine. On ne va pas dire, tiens, on a trop de cancéro ou trop de neurosciences cette année, donc on va en mettre.
Ça a été fondé en 1947, donc dans tous les mouvements d'après-guerre, hein, qui ont vu naître la sécurité sociale et bien d'autres mouvements.
Oui, tout. Oui.
Qui était à la base de cette décision?
Oui, alors effectivement, hein, c'est dans l'après-guerre, la sécurité sociale, c'était la même année. Il y a eu un grand mouvement de création de choses de ce type-là, et l'idée était d'aider la recherche médicale, et à la base, c'était Jean Bernard, hein, des pionniers de l'hématologie moderne, et Jean Burger, pionnier des greffes de reins. Après, il y en a d'autres qui se sont ajoutés, notamment Jean Dausset, prix Nobel, et le découvreur du système de groupe HLA. Et après, il y en a eu d'autres, bien sûr. Mais à la base, c'était ça. Et ça a beaucoup changé. Après, au début, ce n'était pas une fondation. C'est devenu une fondation au bout de quelques années pour des raisons réglementaires, juridiques et de facilité, etc.
Parce que la grande spécificité, c'est qu'en définitive, la fondation est alimentée par des fonds privés, quasiment. Il n'y a pas de fonds publics du tout.
Uniquement des fonds privés.
Voilà.
Il serait d'ailleurs assez, c'est pas le cas de toutes les fondations, il serait aberrant de. On est de la recherche publique qui est principalement financée par nos impôts,
c'est
par
ça,
le public.
C'est ça. C'est
donc que... recevoir de l'argent du public pour le redonner après au public, enfin, c'est un non-sens.
Et par contre, ça aide des chercheurs du public.
Uniquement. Uniquement et dans les sciences fondamentales. Alors ça, c'est une question, parce que vous avez beaucoup d'associations et de fondations formidables, dans lesquelles je pourrais être bénévole, on ne peut pas être partout, qui vont être beaucoup plus en aval, dans de la recherche beaucoup plus appliquée, voire de l'aide à la prise en charge des gens, par exemple, qui vont s'occuper de financer des chiens d'aveugles ou un rein artificiel dans un hôpital, un lit médicalisé, tout ça. C'est extrêmement bien. C'est pas le créneau dans lequel nous sommes. Nous sommes très en amont dans les recherches qui vont permettre de comprendre les maladies, de trouver des solutions nouvelles de diagnostic, de traitement ou de prise en charge en général, qui sont complètement nouvelles. Donc, ils vont changer le paradigme, et évidemment, ça prend du temps, et qui, à terme, vont faire que les gens, au lieu de les aider dans leur prise en charge, ce qui est, encore une fois, formidable, mais qui va faire qu'ils ne vont pas être malades, ce qui est encore mieux.
Il y a des laboratoires privés en France ou pas? Parce qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup de laboratoires privés.
De recherche?
Oui, de recherche, oui.
Oui, on ne peut pas comparer les systèmes, hein, notamment
sûr.
Les universités. Et le mélange entre le public et le privé est naturel aux États-Unis. Je connaissais le président d'une grande entreprise pharmaceutique américaine que j'ai vu devenir président de l'Université de Chicago, ce qui est impensable chez nous. Et après, inversement, il est retourné. Enfin, pour eux, l'abîme qu'il y a entre le public et le privé n'a pas de sens. Alors, les labos privés de recherche médicale, bah, il faut qu'ils soient financés, hein, en gros. Et en gros, ce sont des laboratoires pharmaceutiques, où là, vous avez une recherche fondamentale importante, mais elle coûte très cher, elle est très aléatoire, et c'est vrai qu'on a plutôt actuellement des alliances, des consortiums entre des laboratoires publics et des laboratoires pharmaceutiques qui vont se nourrir de ces découvertes, de ces innovations, pour après les transformer en médicaments qui vont arriver aux patients. Si on parle de médicaments, il n'y a pas que les médicaments, encore une fois, n'oublions pas, c'est qu'une partie. Il peut y avoir de la chirurgie.
Parce que c'est ça qui était intéressant jeudi dernier, c'est qu'on voyait que les chercheurs, évidemment, cherchaient des avancées, mais aussi chercher des fonds, que c'était important et qu'ils sont tous venus d'ailleurs à ce rendez-vous. Il y avait plein de chercheurs, il y avait je n'ai pas noté les noms, je crois que c'était Julien de son prénom.
Julien Faget.
Oui, qui était un jeune homme encore, hein. Enfin, il a une quarantaine d'années ce jeune homme, hein. Donc c'est jeune, et qui vient quand même à ces rencontres pour aussi se rendre attrayant, pour se montrer. Donc ils mouillent aussi leur chemise pour trouver des sous, les chercheurs. Ils ne cherchent pas que des avancées, ils cherchent aussi de l'argent.
Oui, et puis ils ont compris que nous, notre rôle, c'est de faire un intermédiaire entre le privé, le public, que ce soit des entreprises ou des particuliers ou d'autres types de structures, et les chercheurs. Hein, donc on est le maillon entre les deux qui récupère les sons, qui travaillons sur le choix des projets à aider, ça c'est un sujet dont on pourrait parler, qui après met l'argent dans les équipes et les suit les équipes et suit ce qui se passe, l'emploi des ressources et tout ça. Donc, les chercheurs ont bien compris que s'ils veulent avoir plus d'argent, parce qu'ils sont en général plutôt ric-rac, bah, il faut que la Fondation pour la Recherche Médicale reçoive de l'argent. On ne peut pas donner de l'argent qu'on n'a pas.
Donc, globalement, la France est quand même généreuse, l'État, avec la recherche.
Oui, alors la recherche... Bon, c'est jamais assez, alors bon, ah
oui,
je sais pas si
assez,
on peut pas répondre à la question. Mais globalement, la recherche publique, elle est financée par le public, donc par nos impôts. Mais ça va être les murs, hein, les salaires, et encore pas tout. Mais ça suffit pas souvent pour faire les programmes. Il va y avoir le 10% de plus, je dis 10% au hasard, c'est pas 10% de plus, qui vient du privé, qui va faire que le programme va se faire. C'est bien beau d'avoir toutes les structures, c'est indispensable. Mais le plus que vont apporter, on va dire à la marge, les fondations ou les associations, va être ce qui permet de faire les choses. Alors par exemple, Julien Faget, dont vous avez parlé, il a été aidé par la Fondation pour la Recherche Médicale, on dira FRM pour faire plus court, en tant que thésar, quand il passait sa thèse de science, donc il a pu faire une année de plus. Il a été financé par la FRM. Il a été doctorant. Il a fait son doctorat à l'étranger, d'ailleurs. Et il est revenu en France et on l'a aidé pour revenir en France, pour pouvoir redémarrer avec une équipe, etc. Donc lui, il a bénéficié à fond. Il n'aurait jamais pu faire ce qu'il a fait sans l'aide de la FRM. Alors que globalement, le public, bien évidemment, apporte la masse principale. Et là, c'est bien d'avoir ce genre de synergie. Moi, je trouve ça très bien. Et d'un point de vue moral, je trouve très bien que le public, le privé intervienne et qu'on compte pas toujours sur la manne céleste, sur la manne publique. Quoi.
Ça évite aussi la fuite des cerveaux, parce que je pense que s'il n'y avait pas ces lignes de budget supplémentaires, peut-être que les chercheurs décideraient
absolument
de partir à l'étranger.
D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière. Le fait de les aider à revenir en France, les chercheurs qui sont partis à l'étranger, eh ben, c'est bien globalement, c'est bien pour la France, c'est bien pour eux, c'est bien pour pas mal de raisons.
Vous parlez des projets, enfin, je ne sais pas comment ça se passe, donc un laboratoire ou un chercheur veut développer quelque chose, il vient vous voir ou c'est vous qui allez le chercher? Bon, je pense que vous avez une connaissance maintenant du terrain énorme, donc vous savez aussi ce qui se passe dans les labos. Vous allez les voir, le dossier est monté, subventions sont données comment ça se passe?
Ça vient d'eux. Hein.
C'est eux qui viennent vers vous.
Oui, obligatoire. Il faut faut qu'ils aient une démarche volontaire pour aller chercher des fonds. Ils viennent sur le site, il y a des lignes qui sont ouvertes parce qu'il y a différents types d'aides. Il y a des aides très lourdes, hein, une équipe labellisée FRM qui va recevoir 400 ou 500 000 euros sur 3 ans, ou un étudiant en fin de thèse qui va avoir sa dernière année, et puis il y a tous les intermédiaires. Donc il va choisir, en fonction de ses besoins, la rubrique dans laquelle il va postuler. Et il y a également des appels à projets particuliers. On va peut-être avoir... Il y a eu un appel à projet spécial Covid, auquel on avait contribué pas mal, au niveau de la région d'ailleurs. Ça va être sur santé-environnement actuellement. Il y a de temps en temps des appels à projets thématiques qui sont annoncés. Les chercheurs, ils savent, hein, ils savent où aller chercher l'argent. Mmh. Ils suivent ça de près. Ils trouvent. S'ils ne trouvent pas, il faut qu'ils cherchent, sinon ils vont rater des bonnes opportunités. Donc c'est eux qui postulent, ils déposent leur dossier, c'est formaté, etc. Et nous avons un comité scientifique d'un peu plus de 30 personnes, indépendants, des scientifiques de toute la France, dans tous les domaines.
Indépendant, vous voulez dire, Gilles, indépendant par exemple par rapport...
De la FRM.
D'accord.
Ce n'est pas la FRM qui décide choix des projets. D'accord. La FRM organise les réunions, organise la sélection, l'arrivée des dossiers, les mises en forme, tout ça. Par contre, ce sont ces scientifiques qui vont décider ce qu'est le mieux. Donc, il n'y a pas d'influence possible réellement. Ce qui est important, c'est de ne pas avoir de conflit d'intérêts. Et les gens, d'ailleurs, c'est le côté un peu difficile, un peu dur, c'est que les scientifiques qui sont dans ce comité scientifique ne peuvent pas postuler pour eux-mêmes. Ni les gens les gens de leurs équipes ne peuvent pas postuler.
Et ils le font à titre bénévole ?
Oui, ils sont défrayés juste à peine. Oui, voilà, oui. Non, ils le font à titre bénévole. Oui. Il y a une petite indemnité qui est donnée, non pas à eux personnellement, mais à leur équipe.
D'accord.
Pour compenser le fait qu'ils ne peuvent pas postuler. Donc c'est une petite compensation. Bon, ils sont là pour 3 ou 4 ans, et puis après, c'en est d'autres. Il faut que ça tourne. Hein. Mais c'est un travail énorme de filtrer tous les dossiers.
Oui, je veux dire, d'abord, il faut être compétent. Bon, je pense qu'ils le sont tous,
c'est la base.
Faut aussi y mettre le temps, pas faire ça. Faut être investi.
Oui, c'est en plus de leur boulot, dans leur institut de recherche. Mais ils aiment bien. Et puis, être au comité scientifique de la FRM, bon, c'est bien vu, c'est bien dans un CV, c'est bien. Hein,
ils viennent d'où, alors ? C'est des spécialistes ? C'est des chercheurs eux-mêmes ?
C'est des chercheurs, hein, puisqu'ils vont juger des projets de recherche. Donc vous avez des qui sont en amont, donc il n'y a pas encore d'implication.
Il y a des ingénieurs, par exemple, aussi. Il peut y avoir.
Oui, il y a pas. J'imagine, mais ça, je pourrais pas vous dire la composition. Ce que je sais, c'est qu'il y en a deux de Montpellier. Il y en avait trois d'ailleurs dans la fournée précédente. Sur un peu plus de 30, c'est bien, c'est beaucoup. Donc on a Christian Jorgensen et Laurent Lecam qui sont qui représentent Montpellier. Après, ils sont dans des disciplines différentes. Ce qui fait, comme on est dans tous les domaines, vous aurez peut-être 3 ou 4 personnes qui sont des spécialistes de la recherche en cancéro. Donc, ils ne sont pas tous sur tous les projets. Donc, ils vont travailler sur les projets dans lesquels ils sont compétents. Mais les autres, ils connaissent les mécaniques, ils vont challenger quand même. Et puis, ceux qui sont dans le conseil scientifique, ils peuvent très bien demander des avis de façon très confidentielle, hein, parce que c'est quand même des choses, c'est quand même les thérapeutiques d'avenir. Hein. Et puis, il y a des publications en jeu, c'est très confidentiel tout ça. Mais ils ont l'habitude. Hein. Donc, ils peuvent interroger de façon un peu masquée, anonymiser des confrères à eux.
Après, il y a le projet retenu, l'aide est donnée. Il y a le suivi. Qui s'occupe du suivi pour voir justement comment le dossier évalue ? Parce que bon, je pense qu'il y a des projets qui sont des fois à 1 an, à 2 ans, à 10 ans.
Absolument.
Quand on aide, qui suit tout ça ?
Eh bien, on a une équipe à Paris. On a une quarantaine de permanents. C'est très lourd à gérer. Hein. Une affaire comme ça. Déjà, il y a des aspects financiers, il faut que ce soit d'une rigueur absolue. Il y a des aspects juridiques, quand il y a des legs, il faut les gérer. Enfin, c'est assez compliqué. Et pour le suivi, qui est très important, on a une équipe, une petite équipe, qui va suivre déjà les publications, qui va être en contact avec les chercheurs. On a presque 400 subventions qui sont données par an. Donc ça fait beaucoup à suivre. Il y en a, c'est sur 3 ans. Bon. Et ils vont suivre qu'il n'y a pas d'utilisation des fonds d'une façon qui n'était pas prévue, etc. Donc il y a une rigueur, il y a un suivi qui est nécessaire. Hein.
Je voudrais aussi qu'on parle, bah, puisqu'on a visité l'IRCM, donc est-ce que par exemple l'IRCM, moi j'ai découvert plein de choses, hein, Gilles, passionnantes, notamment je vous parlais des ingénieurs parce que j'ai eu un contact très sympa avec les trois filles, enfin les filles qui étaient ingénieures, notamment devant cette grosse bécane qui ouais. aide à 260 000 euros là, que, voilà, c'est un monstre.
Des fois c'est plus cher les appareillages.
Les appareillages vraiment, et, d'ailleurs cet appareil-là avait été aidé aussi par la région Languedoc-Roussillon.
Oui, bien sûr.
Voilà, toutes ces passerelles entre le monde de l'ingénierie et puis le monde du médical, ça m'a beaucoup fait comprendre de choses, cette visite.
Bah, les chercheurs, il y a des profils variés. Il y a quelques médecins, hein, mais souvent ils ne sont pas médecins. C'est bien quand ils sont médecins parce qu'ils vont faire le bridge, le pontage avec les patients, avec les problématiques des patients, avec les besoins médicaux, ça c'est pas mal. Bon, mais il faut surtout des gens qui sont formés scientifiques. Les médecins n'ont pas forcément une formation de chercheur scientifique. En général, ils ne l'ont pas. Donc c'est une petite partie qui va être intéressée et qui va être bonne dans ce sujet-là. Vous avez aussi, alors il y a beaucoup d'appareillages. Comme vous l'avez dit. Donc, il y a des grosses bécanes, il faut avoir des ingénieurs hein, qui vont suivre tout ça. Aujourd'hui, la technologie est fondamentale. On n'a pas juste une pipette, un microscope et une boîte de pétri. Donc, c'est fini.
Non, c'est passionnant. Enfin, la soucoupe, la machine qui prend, qui se déplace, là, comme avec beaucoup de femmes, j'ai trouvé, dans les laborantines. Enfin, de tout
bon, ça, de toute façon, maintenant, en médecine et dans la recherche scientifique, il y a plein de femmes. Ouais. Hein.
On va prendre le pouls.
Oui, vous pouvez laisser quelques garçons quand même. Ça serait pas mal. Non, mais ça, c'est évident. Hein. C'est comme ça, c'est un fait. Bien, pas bien. Bon, j'en sais rien. L'important, c'est que ça marche bien.
Bien sûr. Il y avait aussi une question que je voulais vous poser sur les autres fondations. Bon, là, on sort d'un week-end Téléthon, par exemple, hein, bon, qui a été, je crois, le meilleur week-end Téléthon de toute l'histoire. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de promesses dedans. Et puis, bien sûr, on connaît l'ARC. Il y en a qui sont plus connus. C'est vrai que vous en parlez souvent quand on échange, ou quand vous en échangez sur d'autres antennes. Le manque de notoriété, des fois, de la Fondation pour la Recherche Médicale, ce n'est pas la première que les gens citent.
On est d'accord. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a peut-être eu d'abord un déficit de communication. Et c'est bien le rôle des comités régionaux, comme celui que nous avons, justement, de faire connaître la FRM au niveau de la région. Donc, je fais un ensemble d'actions. Pour moi, mon action principale avec mes bénévoles du comité régional, c'est développer la notoriété de la FRM. Mais il y a également peut-être le fait qu'elle est polyvalente. Alors c'est un avantage et un inconvénient. Quand vous avez une ligue contre le cancer ou l'association des paralysés de France, l'association contre la mucoviscidose ou l'AFM, l'homéopathie et autres maladies rares. Ah oui, c'est clair. Quand vous dites recherche médicale, fondation recherche médicale, alors vous faites quoi? Vous faites tout. Il y a des gens qui pensent que si vous faites tout, vous faites rien. Enfin, voilà. Donc l'image est diluée. Or, c'est une opportunité, notamment pour des mécènes ou une banque, une assurance, une société d'assurance ou une entreprise qui veut faire de la RSE, de la responsabilité sociétale d'entreprise, comme c'est un peu obligatoire maintenant dans le domaine de la santé, eh ben, elle a tous les sujets, elle n'a pas besoin d'avoir 36 intermédiaires. Hein, vous voulez du Covid, ben on a trouvé que la Caisse d'épargne de Languedoc-Roussillon nous avait donné 45 000 euros en 2020 pour la recherche contre la Covid, ben voilà, c'est bien. Après, l'année d'après, ils nous ont donné de l'argent pour la recherche contre l'obésité. Et une autre fois, ça va être autre chose. Donc, il n'y a pas besoin, du coup, c'est facile pour eux. Ils ont l'habitude, ils ont des interlocuteurs, ils ont un comité régional qui est d'accès extrêmement facile, qui est très impliqué, etc. C'est facile, hein. C'est pas dilué.
Mais Sénat, c'est difficile.
C'est pour ça qu'il faut bien penser à cet avantage du côté polyvalent, en sachant que ça complique la communication et l'image.
C'est vrai.
Je prends un peu de temps pour en parler.
Non, mais c'est important parce que c'est vrai que c'est aussi le but de communiquer sur les radios et d'en parler le plus souvent possible, puisque ça donne des lignes et ça donne un cadre à toute la recherche et toutes les possibilités que nous donne ce joli graphisme. D'ailleurs, mon étonnement, ça a été qu'une des premières sources, alors je ne sais pas, c'est les chiffres de 2022, ça, ou de 2022, puisque 2023 n'est pas fini, qu'une grosse part avait été donnée à tout ce qui était neurologique, maladie neurologique, et évidemment, à qui comprend Parkinson.
Vous faites allusion aux chiffres qu'on a montrés la semaine dernière sur les domaines thérapeutiques dans lesquelles ont été attribuées les subventions FRM en 2022. On n'a pas encore les résultats 2023, l'année n'est pas terminée. Hein, on les aura pour la grande soirée des lauréats qu'on fera au mois de mai. Alors effectivement, ça dépend d'une année à l'autre. Hein. C'est, je vous ai dit, on ne va pas dire qu'il faut qu'il y ait 30% pour la cancéro et 30% pour les neurosciences. Et le reste, parce que c'est quand même les gros domaines hein, sur lesquels Alzheimer, Parkinson, la cancérologie, mais les autres, maladies infectieuses, pour nous, c'est très important. Mm-hmm. Maladies génétiques, enfin, je ne vais pas tout, vous redire toutes les spécialités. Mm-hmm. Donc, ça peut changer d'une année à l'autre. Et c'est vrai qu'en 2022, alors comme par hasard, on présentait ça à l'IRCM, on a eu un pourcentage pour la cancérologie qui a été plus faible que d'habitude et un pourcentage pour les neurosciences qui était très fort. Bon, bah, c'est comme ça. Hein.
Oui, oui, bah, c'est ce qui est bien, c'est de savoir
c'est que la qualité des dossiers.
Ça varie d'année en année et que rien n'est arrêté.
C'est pas fixé. Voilà. Et dans, alors, ça, les chiffres que vous avez eus, c'est pour la, c'est au niveau national, hein. C'est pas régional. Mm-hmm. Au niveau régional, après, ben, on va avoir des spécificités régionales. C'est vrai qu'en.
En fonction aussi, peut-être, des laboratoires.
C'est vrai qu'à Montpellier, la recherche en neurosciences est énorme, mm-hmm. de très haut niveau. Mm-hmm. Mais pareil en infectieux, pareil en cancéro, en cancérologie. On est largement au même niveau que le pôle de Toulouse, où il y avait le fameux cancéropole. Hein, donc, on est dans. Voilà. Donc après, ça varie.
Eh bien, on va varier un petit peu en écoutant quelques notes de musique qu'on choisira assez courtes. Et j'en profite pour dire bonjour à Yann qui nous accompagne aujourd'hui à la technique. Yann, on va mettre quelques gouttes du boléro de Ravel et on reprend l'entretien juste après. Merci Gilles Roche. Et oui, on est obligé un peu de raccourcir ce beau début du boléro de Ravel un petit peu à quelques mots. Parce que quand je vous ai posé la question, Gilles, je dis alors la page musicale. Alors la page musicale, Nathalie, faites ce que vous voulez. Et puis après, bah, on est venu sur le boléro de Ravel. Pourquoi le boléro de Ravel ?
Ben parce que j'adore ça depuis tout le temps. Je trouve que c'est fabuleux, c'est totalement génial. Mais sur le boléro de Ravel, j'ai des réticences.
Ah !
Parce que. Il y a le revers de la médaille. C'est-à-dire que c'est une musique lancinante, prenante, avec un rythme extrêmement particulier, tout à fait original, etc., et qui nous prend de façon émotionnelle très forte. Mais moi, qui me méfie de l'emprise mentale en général, c'est comme ça qu'on prend l'emprise sur les gens. Moi, j'ai vécu en Chine, dans des monastères au Tibet, etc. J'ai vu les tantras, les musiques lancinantes qu'on faisait pendant des heures. Et ça, c'est une façon de contrôler les gens. De les mettre, et quand on voit bien les trans, hein,
c'est les trans chamaniques, hein,
les derviches tourneurs, machins, les chamans, etc. Donc là, on crée quelque chose qui est puissant sur la personnalité humaine, et j'aime pas cette prise de pouvoir. Mais j'en suis la victime. Et du coup, j'aime beaucoup.
Parce que la deuxième partie de l'émission, il y avait plein d'autres thèmes que je voulais aborder sur vos activités, parce que vous n'êtes pas seulement l'homme de la Fondation pour la Recherche Médicale. Mais il y a une chose que vous m'avez précisée pendant la musique et que j'aimerais bien qu'on développe rapidement, c'est que les gens peuvent choisir le domaine quand ils font leur don.
Oui, si vous êtes sensibilisé à l'endométriose, par exemple. Je dis ça parce qu'on a une demande de gens qui veulent aider la FRM pour l'endométriose, très récemment. Vous dites, si je donne et que ça va au cancer du pancréas ou au diabète de type 2, vous allez dire, ça ne me convient pas. Donc, vous pouvez choisir le domaine. Hein, et il sera satisfait autant que possible. Et par ailleurs, et s'il y a une difficulté, on vous dira, attendez, par contre, peut-être dans une autre région. Parce que les dons dans une région, ils vont aux chercheurs de la région. Bonjour. Donc on va aider l'emploi, on aide tout un ensemble de choses. Et par ailleurs, si vous êtes donateur, bon, à un certain niveau quand même, vous pouvez savoir dans quelle équipe est allé votre don. Et vous pouvez donc suivre la recherche. À la limite, vous pouvez profiter des visites de laboratoire que j'organise deux fois par an, en changeant tout le temps de sujet et d'institut, pour aller visiter l'équipe dans laquelle vous avez mis les sous. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire.
Oui,
c'est très personnalisé. Il y a du sens à donner au don. Et donc c'est important de le signaler, parce que c'est quand même assez rare. Hein.
Et puis bien sûr, nous mettrons le lien avec le site de la Fondation dans le podcast de l'émission pour que ça soit partagé et que vous puissiez en apprendre plus. Il y avait aussi, bien sûr, qu'on a invité Gilles Roche pour la Fondation, mais pas que. Parce que quand on va voir un peu votre histoire, hein, donc merci LinkedIn, c'est fou. Alors évidemment, votre formation, elle est très longue et de nombreux titres, mais il y a aussi un homme de passion. Et cet homme de passion pour l'autre, je l'ai trouvé notamment en vous croisant au Cercle Zététique. Voilà, on s'est vu une ou deux fois au Cercle Zététique. Mais pas que, puisque vous êtes engagé, donc évidemment vous êtes médecin hein, depuis plus de 50 ans maintenant. Vous êtes membre du CPP Sud Méditerranée, qui est le comité d'éthique de Montpellier. Vous êtes membre de France Angel, du Méliès Bisnel Angel, du Cercle Zététique. Enfin, voilà, vos engagements dans beaucoup d'associations est très très fort. Qu'est-ce qui vous pousse, Gilles Roche, aujourd'hui, à vous battre encore, à vous engager encore, à faire comprendre encore. Bon, on a évoqué hors antenne votre lettre à Raoult et par exemple, toute cette démarche diététique de se reposer sur les faits. C'est quoi qui vous meut ?
Ben écoutez, moi, je suis à la retraite depuis un certain temps, parce qu'en fait, comme je suis assez âgé, même si ça ne se voit
ça
pas...
Ça ne se voit pas, oui.
Merci.
Ça ne se voit pas.
C'était la bonne réaction. Quand même, ça fait assez longtemps que je suis à la retraite, donc j'ai beaucoup de temps. Et j'ai fait plein de choses depuis que je suis à la retraite. Et c'est un privilège de choisir ce qu'on fait, hein, de façon toujours bénévole, bien évidemment, parce qu'on ne va pas s'embêter à avoir des revenus complémentaires si on n'en a pas vraiment besoin. Hein, et puis comme ça te donne une liberté extraordinaire. Donc, moi, mes engagements, ils sont multiples. Hein. Je me suis occupé pendant longtemps de problématiques de petites filles de minorités chinoises dans les montagnes de la province du Guangxi, dans le sud de la Chine, que j'ai vécu et travaillé plusieurs années en Chine. Donc ça, c'était aider les petites filles à aller à l'école. Donc ça, c'est un exemple d'engagement. Et j'ai écrit un relais langue de Croussillon, etc. Et puis je suis allé plusieurs fois avec des gens passer quelques jours chez les Miao. C'est assez exceptionnel comme relation. Ensuite, les Business Angels, moi je suis très, très intéressé par les aspects économiques hein, de la société. Et si on a besoin d'entreprises, on a besoin de générer des emplois, qui ne soient pas que des emplois publics, et de produire de la valeur. Donc il faut que les entreprises fonctionnent. Et en France, bon, il y a tous les métiers traditionnels. Bon, beaucoup ont été délocalisés, mais l'atout principal des pays occidentaux, c'est l'innovation. Mm-hmm. Donc les start-up basées sur des innovations fortes, les marchés de rupture, les marchés de demain. Donc, ils ont beaucoup de mal. Il y a la fameuse vallée de la mort, hein, juste après création, où il ne faut pas beaucoup d'argent, mais personne n'y va. Les fonds d'investissement, les banques, il y a trop de risques. Ils ne comprennent pas les projets. Des fois, c'est compliqué. C'est vraiment des technologies qui n'existent pas. Donc, il a été créé, il y a 15 ans maintenant, même dans la région, un réseau de business angels qui s'appelle Méliès Business Angels. Il y a 300 investisseurs depuis le début. On investit déjà dans 50 projets. Et un business angel, c'est quelqu'un qui va mettre de l'argent personnel, son argent à lui, pas l'argent des autres, dans des start-up. Alors, on peut le faire tout seul. Vous pouvez dire, tiens, une start-up qui cherche des fonds, ben, je vais mettre une certaine somme. Ou se dire, oui, mais c'est compliqué, parce que dans une entreprise, déjà, pour l'évaluer, il y a des aspects RH, des aspects économiques, des aspects techniques, des aspects d'internationalisation, de gestion, tout ça. C'est compliqué, moi j'ai une des compétences ou deux, mais pas toutes. Et par ailleurs, il y a des domaines, comme ce réseau investit dans tous les domaines, on ne les connaît pas tous. Donc on peut se mettre en réseau. Donc ce réseau, il est assez nombreux, et donc il travaille très bien. Et c'est un modèle en France, hein, de réseau de Business Angels. Il est connu pour la qualité de son organisation, pas tellement pour le montant des fonds, parce qu'on n'est pas une région très riche par rapport à d'autres. Voilà, et j'ai été président de ce réseau d'ailleurs pendant 4 ans. Voilà, donc je connais bien le sujet. J'ai travaillé avec d'autres réseaux et on s'est accoquiné avec les gens de Toulouse. On a créé Occitanie Angels et j'étais administrateur de France Angels, qui est la Fédération Nationale des Réseaux de Business Angels. Voilà, donc ça c'est un vrai engagement parce que d'abord, les porteurs de projets, ils sont fantastiques. J'ai une admiration profonde pour eux. Ils s'investissent personnellement d'une façon dingue. Moi, j'aurais jamais été capable de le faire. Et puis, c'est l'avenir. Voilà. Alors, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mortalité. Hein. Il y a beaucoup de projets qui s'arrêtent. Hein. Ça, c'est la vie. Il faut avoir les nerfs solides. Ensuite, je m'intéresse beaucoup aux maladies rares, étant pédiatre notamment, et étant un des fondateurs du pôle Eurobiomed, le pôle santé PACA Languedoc-Roussillon, j'avais créé pour le pôle les rencontres maladies rares nationales, où il y a les associations de patients, les chercheurs, les entreprises, les pouvoirs publics, tout ça. Je l'avais créé à Montpellier, sur 2 jours, il y a 10, 12 ans, 13 ans, je ne sais plus. Et ça a très bien marché, parce que ça manquait. Il fallait que les gens se rencontrent. On disait les entreprises ne vont pas s'intéressent pas aux maladies rares parce que c'est pas rentable. C'était le lieu commun.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'on entend tous. Oui,
oui, mais c'est devenu archi faux. Donc déjà, au début, j'avais animé moi-même une table ronde là-dessus, sur les modèles économiques, pour démontrer que c'était faux. C'est économiquement, c'est très bien. Et on voit bien d'ailleurs que toutes les grandes entreprises, maintenant, s'intéressent aux maladies rares. Et d'ailleurs, quand on parle de la médecine personnalisée, on va dire, vous avez un cancer du sein, mais vous pouvez être triple négatif ou estrogène plus, etc. On ne va pas vous traiter pareil. Mmh. Et à partir du moment où on démembre des pathologies qui sont assez courantes quand même, on va arriver à des maladies rares. On va créer des petits groupes de patients beaucoup plus faibles. Et donc, on va s'occuper de ces patients-là en termes de recherche, de développement, de prise en charge en général, d'essais cliniques, avec des problématiques ou de fabrication en petite quantité de médicaments. On va tomber dans des problématiques de maladies rares. Donc, j'avais beaucoup développé ça, et puis, de toute façon, c'est la vérité. Et aujourd'hui, maintenant, c'est plus une question. Hein, les entreprises s'intéressent. Voilà. Donc, mettre les gens ensemble, réfléchir, se connaître. Ils ne se parlaient pas. Hein, ils se parlaient pas. Les associations de patients, il y avait la FM Téléthon, bien sûr, il y avait toutes les grands trucs qui étaient là. Et dans mon comité scientifique, ils adoraient. Alors, j'ai arrêté au bout de 10 ans de m'en occuper. Et c'est, en fait, ça a été repris par la Fondation Maladies Rares. Et ça a lieu maintenant, tous les 2 ans, à la Cité des Sciences de la Villette. De façon très plus prestigieuse peut-être que simplement au Corum de Montpellier. Voilà un engagement. Pourquoi ? Bah parce que les maladies rares, c'est quand même 3 millions de malades en France. Souvent, elles ont du mal parce qu'elles ont des problématiques spéciales. Hein, souvent, c'est la double peine. Elles ont la maladie, en plus, pas de chance, elle est rare.
Oui, elle est rare.
Voilà. Donc ça me motive. Voilà. Moi, vous savez, quand on est à la retraite, il faut choisir ses engagements. On a un temps, on a une énergie et on ne peut pas tout faire. Donc moi, je ne veux pas aller dans des domaines qui ne me motivent pas fortement, qui n'est pas notamment un intérêt collectif fort. C'est pour ça que la Fondation pour la recherche médicale, c'est un exemple. Après ça, je ne sais plus trop, parce qu'on en a parlé.
Non, mais il y en a plein, mais ce que j'aime, et j'aime vous écouter, ça fait 5 ans que je vous connais, Gilles, à peu près, hein, voilà, que je vous vois de loin en loin. Ouais. Et ce que je vois, c'est un homme qui est toujours calme, qui remet le débat autour du fait, quoi. Et en même temps, qui cherche à convaincre, parce que... Mais vous avez... Alors, je ne sais pas quel mot... c'est pas la conviction, mais l'art de convaincre, doux. C'est-à-dire que je ne vous ai jamais vu virulent, emporté, alors que des fois, par exemple, dans les débats zététiques, vous vous êtes confronté, surtout maintenant avec les réseaux sociaux et autres complotismes, on est gâté en ce moment, Gilles.
C'est,
hein.
c'est des fois assez chaud. Je pourrais dire un petit mot de la zététique, justement.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que, pourquoi ? La zététique, bon, c'est le rationalisme, on va dire. Hein. Mm-hmm. C'est le nom moderne. Hein. Mm-hmm. Donc, il y a un cercle de zététique du Languedoc-Roussillon. Donc, je suis un des membres très actifs. Et en gros, tout ce qui concerne la médecine et la santé, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est la raison qui prime sur les émotions en tant que facteur de décision. C'est absolument pas incompatible avec l'intuition et les émotions. Ça, je m'insure beaucoup. Des fois, je peux m'énerver beaucoup quand j'entends ça.
Ah, vous pouvez vous énerver quand même. Je ne vous ai jamais vu énerver.
Si on m'embête.
Hein. Un petit peu quand même.
Ah, si on m'embête, alors là, vraiment, là, je peux vous dire que ça peut être.
Vous pouvez être virulent aussi.
Ah, il peut y avoir du sang sur les murs, là. Non, mais je ne cherche pas ça et ça arrive quasiment jamais dans ma vie. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Alors donc, on est dans un monde fou quand même, de désinformation, de n'importe quoi, dans tous les domaines. Alors la médecine, on pourrait penser qu'elle soit préservée, mais elle ne l'est pas du tout. Mm-hmm. Hein, alors le climat, le machin, on critique les institutions, l'éducation, la justice, tout. Tout est discrédité, tout est mis au même niveau. Voilà. Et on écoute par contre des gens qui sont très dangereux, qui sont incompétents, et qui baladent les gens dans des domaines graves. Alors, bon... Mais moi, c'est surtout la partie médecine, mais le reste m'intéresse aussi, bien évidemment, hein, en tant que citoyen. Donc, on peut promouvoir le raisonnement, le bon sens, et surtout, je dirais, l'honnêteté, l'honnêteté intellectuelle, que souvent, dans tous ces charlatanismes, et dans les pseudo-médecines, il y a beaucoup, c'est des charlatans, ils font des business, hein, c'est des trucs, ils habillent de tout un ensemble de trucs qui plaisent aux gens, hein, mais c'est pour ça qu'ils ont autant de succès, mais c'est des arnaqueurs quand même, c'est mm-hmm. des escrocs en général. Il y en a qui sont convaincus, alors là, ça devient grave. Voilà, donc les zététiciens font la promotion du raisonnement en disant... Encore une fois, les émotions, c'est fondamental, etc. Les grands mathématiciens, puisqu'on met toujours les mathématiques comme étant la logique pure, tout ça. Mais il y a eu des grands virtuoses, des grands mélomanes. Enfin, je veux dire, c'est totalement compatible. Il ne faut absolument pas opposer les deux. Par contre, c'est un peu le système 1 et le système 2 de Daniel Kahneman, hein, prix Nobel, qui a dit, bon, en premier, quand on est devant une situation, on est d'abord dans le système 1, on réagit rapidement, l'intuition, tout ça. Tous, on fait tous ça. Et après, on peut en rester là. Et on va agir, on va pouvoir faire des guerres, ou on peut faire des tas de trucs, parce qu'on va s'énerver. On va pas prendre le temps de voir les conséquences, de réfléchir, et on va faire des bêtises énormes. Et le plus souvent, quand on réagit que sur l'intuition ou l'émotion immédiate, on va prendre des mauvaises décisions. Des fois, ça va tomber juste. Mais le plus souvent, c'est pas bon.
Et aujourd'hui, on est dans le royaume de ça.
Et on passe tous par le... c'est épouvantable, parce que ça coûte cher. Hein. Mm-hmm. Je pense que vous voyez, vous suivez les infos, oui. Si on n'avait pas marre. Et quand on passe dans le système 2 de Kahneman, là, on va faire appel à l'intelligence, au raisonnement. On va réfléchir, on dit, ok, d'accord. Vous êtes passé par l'intuition et par l'émotion. Automatiquement, on est fait comme ça. Simplement, vous n'y êtes pas resté à ce stade-là. Vous êtes passé au niveau du raisonnement qui fait que vous dites, ok, d'accord, très bien. Bon, réfléchissons maintenant, posons-nous. S'il y a des décisions à prendre, s'il n'y en a pas à prendre. Hein. Alors évidemment, dans les relations amoureuses, ça va être un peu différent, mais des fois, faut aussi réfléchir un peu. Hein. Sinon, on voit des fois des erreurs de casting qui coûtent très cher. Hein. C'est valable un peu partout. Bon, là, c'est un peu à part, hein. On va pas parler.
Gilles, il nous reste 3 minutes, donc c'est vrai que je voulais aborder...
La zététique, et puis il y a plein d'autres sujets.
Il y a plein d'autres sujets, mais peut-être qu'on pourra prendre une deuxième belle rencontre.
La médecine de demain, tout ça.
Notamment au moment de ce rendez-vous de mai, peut-être, on pourra se voir une fois qu'il y aura...
Oui, la grande soirée des lauréats de la FRM à la salle des rencontres.
Parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup, en préparant, de l'état de la médecine en France. Alors, on a parlé de la recherche, on pourrait parler de l'hôpital, de la médecine de ville, des déserts médicaux, des numerus clausus. Je crois que ça fera partie d'une deuxième belle rencontre.
Avec plaisir,
et
Nathalie.
Si on se refait un rendez-vous comme ça,
je suis à la retraite,
bien.
J'ai le temps.
Non, c'est vraiment intéressant parce que vous avez des réelles positions et vous avez des réelles idées là-dessus. Et justement aussi de nous sortir de nos certitudes, des certitudes qui sont très entretenues en ce moment par toutes les informations diverses et variées. Et pas forcément des médias traditionnels, mais aussi des réseaux sociaux qui sont très importants dans nos vies. Montpellier, ce soir, on nous annonce Montpellier 2028. Vous êtes aussi un homme de culture. Quand on se rend compte, vous aimez aussi la lecture, la littérature.
Ah, je suis autant littéraire que scientifique.
Voilà. Donc ça sera aussi un moment de débat. Il y a un livre que vous lisez en ce moment, tiens, Gilles.
Oh, j'ai une pile de livres. J'ai pas trop le temps parce que je lis beaucoup des articles de journaux, beaucoup des articles. C'est vrai que les livres, souvent, c'est une perte de temps. Ouais. Vous avez 10% qui vous intéressent, il faut lire le reste. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on communique pas comme avant. Moi, quand j'étais gamin, j'étais bercé par la lecture et tout ça. Maintenant, bon, il y a les pavés, j'ai pas le temps, quoi.
Le roman, vous aimez l'art romanesque ?
Ça dépend. Mm. Ça dépend. J'en suis pas un grand fanat, parce que j'ai trop de choses. Mm. J'ai d'autres choses en priorité à lire. Mm-hmm. C'est ça le problème. Mm-hmm. Je lis énormément, mais c'est vrai que les romans.
Puis en ce moment, vous êtes occupé avec les olives ?
Ça y est, c'est fini la récolte.
Ça y est, c'est fini.
Elle était très mauvaise. Mais...
Ah oui.
Ah oui.
Et vous avez eu la mouche. La mouche de l'olive, il y en a dans la région ou pas ?
Alors si on parle des olives, là, ça... oui, on l'a tout le temps.
On l'a tout le temps.
Et si on fait rien, il n'y a plus d'olive. Hein.
D'accord.
Mais si on parle de la conduite d'une oliveraie, alors là,
Ça fera une troisième émission.
Ah, c'est le plus important, même, je dirais.
Bah, merci beaucoup Gilles Roche. Aujourd'hui, on a parlé de la Fondation pour la recherche médicale. J'espère qu'on vous a donné plein de renseignements. Vous pourrez aller en savoir plus en allant utiliser le lien que Yann ou moi, on mettra avec l'émission.
Et vous verrez comment faire des dons.
Et voilà, surtout comment faire des dons. Et puis, on se réinvite et pour parler des olives et pour parler de la médecine en France, de beaux entretiens et de belles rencontres qui vont continuer avec Gilles Roche. Merci Gilles.
Merci Nathalie, merci pour l'occasion.
À très bientôt, à la prochaine rencontre.
Les plus belles rencontres sont toujours inattendues. Elles peuvent parfois changer le cours de votre vie.